veut dire qu'on est dans un programme informatique?
Est-ce vraiment si invraisemblable?
Drôle de jeu. Pour gagner, il ne faut pas jouer.
Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital.
Ce gars-là est allé jusqu'à obtenir des informations sur toi. S'il est fort, il pourrait accéder à tout.
C'est exactement ce dont j'ai besoin. Un site sécurisé où je peux laisser ce virus évoluer à sa guise.
Just a regular cybersecurity engineer. But I'm a vigilante hacker by night.
Qu'est-ce qu'on obtient ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque dimanche de ce mois de juillet, en fin d'après-midi, nous explorons ce que la science informatique a à nous apprendre, à nous dire sur l'univers numérique dans lequel nous baignons. Ce parcours, c'est en compagnie de Gérard Berry, professeur au Collège de France, où il occupe la chaire Algorithmes, Machines et Langages que nous le faisons, avec lui et avec celle d'un autre invité à qui il a proposé un dialogue. Après nous être souvenus la semaine dernière que la discipline, bien que récente, avait déjà une histoire, nous vous proposons cette semaine un zoom sur un moment dont nous sommes les contemporains. Il fut un temps où on ne pouvait conserver un texte qu'en utilisant du papier, un son qu'en utilisant un vinyle ou une bande magnétique, une photo, un support en celluloïde. Et puis, on est entré dans un autre temps, celui où films, sons, textes peuvent invariablement être stockés dans des disques durs, des clés USB ou même sur des serveurs. Depuis la création d'Internet, la taille des données partagées entre les hommes est allée croissant pour atteindre aujourd'hui des quantités astronomiques. On est entré dans ce que l'on a appelé, à la suite d'un article paru dans les années 2000 aux États-Unis, l'ère du big data, en français celle des mégadonnées. Mais de quoi parle-t-on au juste lorsqu'on utilise ce terme de données en informatique? En quoi peut-on parler d'une révolution? Quels sont les enjeux de ce bouleversement pour la discipline informatique et quel avenir nous réserve-t-il? C'est ce dont nous parlerons aujourd'hui avec vous, Gérard Berry. Bonjour.
Bonjour.
Et avec celui que vous avez choisi pour nous guider dans ce parcours, Stéphane Mala, professeur de mathématiques appliquées à l'École normale supérieure. Bonjour.
Bonjour.
La création de données est en pleine explosion. Avec tous les selfies et les fichiers inutiles que les gens refusent d'effacer sur le cloud, 92% des données mondiales ont été créées pendant les deux dernières années seulement. À la vitesse actuelle, la capacité de stockage des données mondiales sera saturée d'ici le printemps prochain. Il va s'agir ni plus ni moins d'une catastrophe. La pénurie de données, le rationnement de données, le marché noir de données. Le programme de compression de quelqu'un va sauver le monde d'un datakédon. Et il y a sacrément intérêt à ce que ce soit Nucleus et pas cette saleté de Pied Piper! Je sais pas pour vous, mais je ne peux pas vivre dans un monde où quelqu'un d'autre ferait de ce monde un monde meilleur. Mieux que nous le faisons nous.
On entendait un extrait d'une série américaine qui s'appelle Silicon Valley, une série donc assez récente qui met en scène un jeune entrepreneur qui, sur la côte ouest des États-Unis, met au point un algorithme puissant qui permet de compresser des données à vitesse grand V. Et ce jeune entrepreneur menace l'entreprise qui règne jusque-là dans le domaine. C'est le patron de cette entreprise concurrente que l'on entend dans cet extrait. Expliquer donc que 92% des données mondiales ont été créées dans les deux dernières années et que si leur nombre continue d'augmenter, la capacité de stockage pourrait saturer. Alors, je ne sais pas si ces chiffres sont tout à fait réalistes, mais en tout cas, l'explosion des données numériques à laquelle nous assistons, c'est bien une réalité, Gérard Berry.
Ah, c'est une réalité assez récente, mais qui a été progressive. Au début, il n'y avait pas beaucoup de données. Les ordinateurs, il y avait des programmes, il n'y avait pas beaucoup de données. Par exemple, les données d'une entreprise, des fiches de paye, bon, c'est pas grand-chose, ça tenait sur du papier. D'ailleurs, tout ce qui tient sur du papier, c'est pas grand-chose. Puis après, il y a eu des choses bizarres, par exemple, des données qui apparaissaient et disparaissaient en continu. Quand on pilote un avion, il va faire des tas de mesures sur l'air autour de lui, sur sa position, et puis il calcule où aller le coup d'après, et puis il jette les données. Et puis est arrivé Internet. Alors Internet, ça a tout changé parce que ça s'est mis à stocker les données, à plus rien oublier. Au début, c'était pas très gros. Et puis il y a eu une invention, la première invention véritable en traitement de données pour connue des humains, parce qu'il y en avait d'autres avant, en télécom par exemple. Mais c'était le moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'est un objet bizarre qui prend toutes les pages web du monde et permet de répondre extraordinairement rapidement à des questions arbitrairement stupides en disant il y a un million de réponses et voilà comment je les classe. Donc ça veut dire ça, c'était l'ère de la grande chose. Mais on était quand même à l'ère de la pluie. Au moment où les premiers moteurs ont été créés, en 95, il y avait à peu près 16 millions de pages sur le web. Maintenant, il y en a 16 milliards, donc on a changé complètement d'échelle. Et puis surtout, elles ne contiennent pas la même chose. Avant, ça contenait des textes, et maintenant, ça contient eh bien, des milliards de photos qui arrivent par jour, des millions de vidéos qui arrivent par jour, des textes dans tous les sens, qui sont pas forcément produits par des humains d'ailleurs. Et donc, il y a un déluge. Le déluge, ça veut dire il pleut tout le temps. On est passé du désert au déluge. Et ce déluge pose des tas de questions. Mais d'abord, où mettre toutes ces données ? Il faut savoir, par exemple, que les biologistes, avec leur séquençage de génome, sont capables de remplir les disques à la vitesse où on les fabrique.
Alors, on va revenir sur l'usage qu'on peut faire de toutes ces données, mais peut-être avant même d'en arriver là, Stéphane Mala, qu'est-ce qu'on appelle une donnée en informatique ? Est-ce que c'est simplement un contenu ? C'est quoi une donnée ?
Alors, une donnée en informatique, ça va être une séquence de 0 et de 1 qui va être stockée. Ça, c'est la représentation de la donnée. Mais pour en arriver là, il a fallu effectivement se poser la question... Comment on représente des données et surtout, quelle est l'information qui est capturée par ces données? Et cette question, pour revenir justement dans l'histoire, elle a été très importante dans les années 40-50 et c'est notamment Claude Shannon, dont on fête maintenant le 100e anniversaire, qui a eu cette idée extraordinaire de définir la notion d'information par la taille minimum du code, c'est-à-dire du nombre de 0 et de 1 qui vont être nécessaires pour reproduire une donnée.
Alors justement, information, données, donc déjà deux termes qu'il faut en fait distinguer, si je vous comprends
qu'il
bien.
Qu'il faut distinguer. On verra que cette notion de données peut permettre de répondre à des questions, et donc la notion d'information ici se raffine. Mais on peut cependant associer à des données directement une information, une notion d'information qui correspond au nombre de 0 et de 1 pour le coder. Donc il y a une correspondance directe entre des données et l'information qu'elles contiennent.
Et justement, l'idée d'associer une donnée à des 0 et des 1, c'est, si je ne me trompe pas, ce qu'on appelle les bits, c'est-à-dire le binary digit, 0 et 1, c'est Claude Shannon qui l'a.
Non, l'idée d'associer des 0 et des 1 à des données, c'est une idée très ancienne qui permet de représenter n'importe quel nombre avec des 0 et des 1. La question que s'est posée Claude Shannon, c'est quelle est la taille minimum du code, autrement dit, quelle est la taille le nombre minimum de 0 et de 1 qui sont nécessaires pour représenter des données. Et cette taille minimum va mesurer l'information. Mmh. Et l'intuition et l'idée fabuleuse que Claude Shannon a eue, c'est de réaliser que ceci est lié à la réduction d'incertitudes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une information ? C'est quelque chose qui vous permet de réduire l'incertitude sur la connaissance d'un événement, et en cela, il a montré que c'est profondément lié à toute une partie de la physique qu'on appelle la physique statistique. Alors, pour vous donner un exemple simple, lorsque vous avez un dé et que vous lancez votre dé, si le dé n'est pas pipé, toutes les faces sont aussi probables les unes que les autres, votre incertitude est maximum, on dit que l'entropie est maximum. Si par contre le dé est pipé, alors vous avez une information précieuse si par exemple vous savez que le 6 va sortir, et quelle va être la conséquence ? La conséquence, c'est quand vous lancez plusieurs fois le 6 va apparaître beaucoup plus souvent, et donc vous aurez besoin de moins de 0 et de 1 pour coder la séquence de nombres. Autrement dit, vous avez plus d'informations. Et en faisant ce lien entre information, entropie, taille de codage, Claude Shannon a fondé tout un domaine qu'on appelle la théorie de l'information.
Donc il faut réduire l'incertitude pour pouvoir transmettre de l'information.
L'incertitude mesure la taille du code minimum qu'il faudra pour reproduire ces données.
Et pour bien comprendre l'importance de ce personnage qu'on connaît dans le grand public finalement assez peu, s'il n'y avait pas eu Claude Shannon, en gros, l'ère numérique, ce qu'on appelle par ce terme un peu galvaudé dans laquelle nous sommes, n'existe pas, Gérard Berry.
Absolument. D'ailleurs, au début, ça s'appelait pas science de l'information, mais science de la communication. Et il cherchait à transmettre, comprendre ce que ça voulait dire transmettre un message sur une ligne téléphonique à l'époque. Et pour comprendre la puissance de la théorie de Shannon et la difficulté qu'il y a à l'exploiter, on est passé assez brutalement pour les liaisons Internet, de 1000 bits par seconde, 1 kilobit, où des fois, on est monté jusqu'à 56 avec Transpac. Et puis maintenant, sur le même fil de cuivre, on transmet 20 millions au lieu de 56 000. Et ça, c'est juste les maths de Shannon, c'est pas le cuivre qui a changé. Et quand on regarde l'évolution des téléphones portables, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, il y a un facteur pratiquement 1000. Et ça, c'est les mathématiques de l'information.
Alors, Stéphane Malin.
Le problème, tel que Shannon l'a posé, c'est qu'il a défini cette notion d'entropie idéale qu'on veut atteindre. Le problème, c'est d'arriver à l'atteindre. Et comprimer des données, c'est réussir à trouver une façon d'atteindre ce code optimal. Et là, se posent des questions fondamentales. Si on prend par exemple l'exemple de la musique, la question, c'est quelles sont les structures élémentaires de la musique qui vont ensuite permettre de coder de la musique la plus efficacement possible. Et ces structures élémentaires, eh bien, on les retrouve sur une partition de musique, ce sont les notes de musique. Et donc, cette recherche a ouvert tout un pan, puisque après cette problématique posée par Shannon, il a fallu trouver ces structures élémentaires. Et là, beaucoup de mathématiques ont permis de voir que, par exemple, sur des sons, on trouve ces notes de musique qu'on a appelées par la suite des ondelettes. Ça a été toute une théorie qui a été construite autour. Mais dans des images, on retrouve ces mêmes ondelettes. C'est-à-dire qu'on retrouve une forme générique de structure à travers des données extraordinairement différentes. Et c'est par là même que Shannon a mis les premiers éléments qui ont permis à toute l'industrie des télécommunications de se développer.
Alors, dans le domaine des télécommunications, concrètement, ça donne quoi, Gérard Berry?
Ça donne toutes les transmissions à très grande allure, mais aussi la compression, c'est-à-dire la compression d'images. Là, il y a un autre personnage qui s'appelle Joseph Fourier, qui a joué un très très grand rôle, bien sûr. Quand on prend une image dans un capteur de photo et qu'on le transforme en JPEG, JPEG, c'est un nom pour c'est Joint Photography Expert Group, mais c'est un nom pour des algorithmes qui vont permettre d'oublier beaucoup d'informations, parce que l'information est liée à notre perception. Donc, par exemple, dans un MP3, c'est, on va enlever, mettons, pour simplifier, les aigus, beaucoup d'aigus, parce que les aigus sont pas très importants, pas trop importants pour entendre la musique. Et donc, en enlevant beaucoup d'informations, on change pas trop notre perception. Donc, cette notion d'information, elle est liée aussi à qui cherche l'information. C'est pas une, Shannon a défini une notion intrinsèque, mais aussi la notion de l'observateur. Par exemple, si on fait un moteur de recherche, eh ben, il a 16 milliards de pages web et on veut extraire dedans une certaine quantité d'informations. On a une incertitude énorme au départ, on a 16 milliards de pages, et le moteur de recherche nous dit « bon, j'ai 1 million de réponses ». Donc on a réduit l'incertitude, on n'a pas résolu le problème. Le problème, il n'est jamais définissable de façon tout à fait simple. C'est jamais une information 0-1 qu'on cherche.
Oui, Stéphane Malin.
Alors effectivement, Fourier a défini ses premières structures élémentaires.
Alors qui est ce Fourier?
Fourier est un mathématicien français, fin du XVIIIe siècle, et qui a défini ces structures élémentaires qu'on appelle des sinusoïdes, qui là encore se retrouvent partout, en physique, mais aussi pour représenter des sons. Et les premiers, effectivement, standards qu'on appelle JPEG étaient basés sur ces sinusoïdes. Et puis, au fur et à mesure de la recherche, on a réalisé que ces sinusoïdes n'étaient pas forcément les structures qui correspondaient à la perception, ni les structures les plus efficaces pour représenter l'information, d'où les autres structures qui représentent des choses beaucoup plus proches des notes de musique, comme des ondelettes, et d'autres, ce qu'on appelle de bases, permettant de représenter l'information.
Et si on essaye de clore un peu ce parcours de l'usage concrètement des données, on entend bien la compression des fichiers sonores, les fichiers informatiques, mais il y a aussi un usage de données brutes, si je puis dire. Par exemple, je ne sais pas, en médecine, on sert aujourd'hui de cette analyse de quantité de données dans le domaine épidémiologique, Stéphane Malin.
Oui, je pense que là, ce qui se passe, c'est que on ne pose plus la question de reproduire de données, mais de répondre à des questions grâce aux données. Mmh. Et là, on a un champ énorme qui s'est ouvert, qui est le champ de l'analyse de l'information, dont les applications sont considérables, notamment la médecine. En médecine, à partir d'un électrocardiogramme, on peut faire un diagnostic et partiellement soit aider, soit remplacer un médecin qui n'est pas là. À partir de données génétiques ou tests biologiques, on peut aider le médecin pour définir une prescription qui sera adaptée à chacun des patients plutôt que définir une prescription générique, par exemple en cancérologie. Donc il y a énormément de domaines qui s'étendent à pratiquement toutes les questions que l'on a autour de nous. Par exemple, la reconnaissance de visage. Les données, ce sont des images, donc 1 million de points. Et à ces données, on va poser une question. quelle est la personne que l'on a sur cette image ? Reconnaître une personne, où on peut poser une autre question, est-ce qu'il y a un animal ? Quel est le type de paysage ? Ce champ, qui est le champ d'analyse d'information, on le retrouve aussi pour la reconnaissance de la parole ou la reconnaissance de locuteur, mais ça peut être aussi pour reconnaître des images afin qu'une voiture puisse conduire automatiquement, c'est-à-dire que l'on a tout le champ de la robotique. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'avec le déluge de données qui est arrivé, avec l'augmentation de la puissance des ordinateurs, on est maintenant capable de faire des choses qui étaient inimaginables il y a 5 ans. Par exemple, des voitures autonomes, c'était des choses que personnellement, je ne pensais pas possibles avant 30, 40 ans. Or, c'est une réalité, y compris une réalité industrielle. On peut faire de la prédiction, y compris de la prédiction de comportement. Il y a eu des analyses, notamment avec des très grands questionnaires. Je pense là à une étude en particulier faite aux États-Unis sur un questionnaire posé à plus de 80 000 personnes. On a essayé de voir la puissance de prédiction des collègues de travail, assez mauvaise, 25%. Des amis, un peu meilleurs, 50%. Du conjoint, ça peut atteindre 57%. Ensuite, ils ont testé des algorithmes basés sur l'information des likes sur Facebook. Et ils se sont rendus compte qu'à partir de cette information partielle, on peut prédire le comportement en termes d'opinion politique, en termes de préférence, est-ce que vous préférez les poires, les fraises, en termes de relations sociales, d'utilisation de drogue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est maintenant capable, avec ces données, d'analyser l'information et donc de répondre à des questions extraordinairement diverses.
Ton truc, j'en veux pas. C'est obscène d'utiliser son dos. Putain, son nom, mais t'es cinglé. C'est douloureux. Tu sais que c'est douloureux.
C'est la raison pour laquelle je t'ai inscrite, justement.
C'est quoi ce truc? À quoi ça sert? C'est un pauvre truc de...
Tu cliques sur le lien et ensuite tu pourras lui parler.
Commencer à parler?
Tu tapes des messages, comme pour un email, et ça te répond, comme lui l'aurait fait.
Mais il est mort!
C'est un logiciel. Il crée un simulacre de la personne. Tu lui donnes son nom. Il fouille dans son passé. Il lit tout ce qu'il ou elle a pu écrire sur Internet de son vivant, tous ses posts sur Facebook, ses tweets, tout ce qui a été publié. Je me suis contentée d'entrer le nom d'Ash. Le système s'est occupé du reste.
Non, mais c'est un truc de taré! De taré!
Écoute, dis-lui bonjour déjà. Si ça te convainc, tu lui donneras accès à sa messagerie privée.
Plus il a de données, plus il lui ressemble.
Ça le remplacera jamais.
C'est vrai.
Mais ça fait du bien.
À l'instant, un extrait de la série Black Mirror. C'est une série de science-fiction qui met en scène à chaque épisode une vision assez cauchemardesque de notre univers contemporain. Dans cet épisode, le personnage principal est une femme veuve et elle se trouve confrontée à un logiciel qui recrée un simulacre, un avatar de son défunt mari, parce que ce dernier, comme nous tous aujourd'hui, a laissé des traces numériques, le son de sa voix sur des enregistrements, son visage dans des photos, etc. C'est une collecte donc de données personnelles. C'est un peu ce que vous évoquiez à l'instant, Stéphane Malat, parce que l'un des aspects aujourd'hui de la question des données, c'est qu'on laisse énormément de données personnelles traîner sur les réseaux divers, Gérard Berry.
On ne les laisse pas traîner, on les met explicitement.
Ouais, c'est-à-dire volontairement.
Les gens se plaignent que les grandes sociétés du web utilisent nos données, mais ils ne l'ont jamais caché. Hein, faut pas être surpris, ils ont toujours dit qu'ils allaient faire ça. Et effectivement, ça donne des choses très importantes. Mais ceci dit, il faut quand même se méfier, parce que c'est pas magique tout ça. Et c'est pas magique, et on peut raconter énormément de bêtises à partir des données. Il y a d'ailleurs les chercheurs en données tirent l'alarme. Par exemple, des gens calculent beaucoup des corrélations et confondent corrélation, deux phénomènes ont l'air de se ressembler, et causalité. Et il y a un très joli article que je recommande qui s'appelle « Stork bring babies », les cigognes apportent les bébés, où on peut voir qu'il y a effectivement, sur un assez grand nombre de pays qui ont été soigneusement choisis, une forte corrélation entre le nombre de cigognes et le taux de natalité. On ne peut rien en déduire. Donc il y a une tendance
naturelle. Il ne faudrait pas en déduire que les
données,
cigognes qui font les bébés.
À l'analyser les données, il faut faire ça avec un très grand soin, une très grande méfiance. Il est très facile de faire dire ce qu'on a envie de faire dire à des données. Et le travail des gens qui font de la vraie analyse de données, c'est de passer par là-dessus. Ce qu'on cherche à fabriquer, quelquefois, c'est des bons pifomètres. Les hommes sont très très bons en pifométrie, par exemple les médecins, il n'y a pas que leurs études qui leur servent dans la vie, à leur expérience et leur pifométrie.
Alors, ce serait quoi la pifométrie, Gérard?
La pifométrie des données, c'est faire dire des choses pertinentes à des données sans leur faire dire des choses stupides.
Stéphane Malin.
Alors peut-être pour comprendre le problème, il faut réaliser que ces données représentent énormément de variables. Une image, c'est 1 million de variables. Et la grande difficulté, c'est ce qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité, c'est que il y a beaucoup d'utilisations possibles de ces variables, et notamment, on peut en déduire des choses qui sont totalement fausses. Donc, toute la difficulté de cette science, c'est de comprendre comment faire face à l'énorme domaine des possibles, et de trier parmi cet énorme domaine des possibles les réponses intéressantes à ces questions. Et une des raisons pour lesquelles c'est possible de le faire, c'est qu'il y a de la structure. Et cette structure, on la construit par analogie.
Mais c'est quoi la structure ?
Alors, la structure, c'est le fait que les données ne sont pas totalement aléatoires. Comment fonctionne un système d'apprentissage ? Vous avez des exemples. Je vais reprendre, par exemple, le problème de reconnaissance de visage. On vous donne des images et on vous donne les noms des personnes. Et maintenant, on vous donne une nouvelle image et on vous demande qui c'est. Tout le problème, ça va être de comprendre en quoi la nouvelle image que vous avez est analogue à d'autres images qui correspondaient à votre nom. Et donc, l'analyse de données devient un problème de découverte d'analogies et en quoi les choses sont analogues.
Ça, par exemple, juste pour qu'on comprenne concrètement comment ça intervient dans nos vies, sur Facebook, par exemple, il y a un système qui permet d'identifier à partir d'une photo le nom de l'ami, pour peu qu'il se soit enregistré sur Facebook. Hein, c'est bien de ça dont on parle.
C'est de cela dont on parle. C'est aussi de cela dont on parle quand il y a une reconnaissance automatique de mélodie. C'est de cela dont on parle lorsqu'il y a un diagnostic médical. Avant, il y a eu des exemples d'électrocardiogrammes dont on connaissait qui correspondaient à certains diagnostics. On en donne à nouveau. Dans toute cette problématique, cela fonctionne comme ça. On travaille avec des exemples empirique, et à partir de ces exemples empiriques, on en déduit par analogie la réponse à une nouvelle question qui va porter sur des données qui sont similaires.
Et ça, c'est le domaine de l'apprentissage par ordinateur.
C'est le domaine de l'apprentissage par ordinateur. C'est tout ce domaine statistique qui va consister à répondre à des questions associées aux données.
Et est-ce que l'apprentissage par ordinateur, si j'ai bien compris, c'est une traduction d'un terme anglais qui est le machine learning, c'est bien cela ?
Oui.
Ou dans l'autre sens, je ne sais pas. Est-ce que c'est synonyme de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle ?
L'intelligence artificielle est maintenant extraordinairement liée à ce domaine. Dans les années 80, l'intelligence artificielle était pensée comme une forme de logique, de déduction. Maintenant, le renouveau de l'intelligence artificielle est né du fait que l'on a réalisé qu'on pouvait construire de la connaissance à partir des données et faire des choses qui ressemblent à ce que l'on est capable de faire, par exemple reconnaître des visages, reconnaître des sons, reconnaître la parole, répondre à des questions, pouvoir conduire une voiture, prédire des comportements. Tout cela, ce sont des comportements que l'on associe à l'intelligence, l'acquisition de connaissances à partir de données, donc associée à l'intelligence.
Oui, une voiture qui se conduit toute seule, entre guillemets, ça existe parce que ça relève de ce domaine qu'on appelle l'intelligence artificielle,
oui,
Gérard Berry.
L'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est fondamentalement plus large que ça, parce que l'apprentissage n'est pas tout dans notre intelligence, hein, loin de là, mais l'apprentissage a du succès et sur le reste, on y arrive moins bien. Il faut encore se rappeler une fois, on a un triste personnage en informatique qui s'appelle Turing, et Turing a discuté dans un très célèbre article, il y a fort longtemps, a discuté cette question, et il parlait de la question de l'apprentissage, mais nous on est beaucoup plus fort quelque part, un petit enfant apprend beaucoup de choses à partir de très peu d'exemples, quelque chose qu'on ne sait pas encore faire, et il y a d'autres choses dans l'intelligence, il y a la création et tout ça, il faut
oui,
pas, le mot intelligence est légèrement trop large pour le costume de l'apprentissage.
Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle d'intelligence artificielle, on a donné cette expression pour nommer ce phénomène que en quelque sorte la machine apprend toute
seule.
Oui,
c'est une branche extrêmement importante de l'intelligence artificielle, mais reconstruire l'intelligence artificiellement, il y a beaucoup d'autres choses à faire après. Mais c'est une branche qui a eu un succès énorme à cause de, d'abord, des idées qui sont anciennes, mais qui ont été beaucoup travaillées. Ça a 25 ans, les idées qui sont là-dedans. Mais surtout, la puissance des calculs des machines. Et là, c'est des jeux vidéo qui ont fait le boulot.
4-1 à Séoul, le coréen Lee Sedol, meilleur joueur mondial de Go, s'est définitivement incliné devant la machine. Le tournoi aura duré plus de 5 jours, le cinquième match avait lieu ce matin et l'ordinateur a gagné pour la quatrième fois. AlphaGo s'est même vu décerner, juste avant d'ailleurs, le titre de grand maître de Go de rang divin, la plus haute distinction accordée à un joueur de Go. Quant à l'humain, Lee Sedol, il a vaguement sauvé l'honneur de la race humaine puisqu'il avait remporté samedi la quatrième manche, mais ça n'a pas suffi.
On est très loin de l'intelligence de l'homme sur la plupart des domaines, mais comme je le disais, il y a eu un saut très important. Et le dernier exemple est le jeu de Go. Tout le monde pensait que cela demanderait énormément de temps d'être capable de battre le champion du monde de Go. Pourquoi ? Parce que le jeu de Go, contrairement au jeu d'échecs, implique énormément de possibilités. Et donc savoir trier ces possibilités était associé à une forme d'intelligence que l'on ne pensait pas les machines capables d'obtenir. Or, le champion du monde de Go a été battu.
En mars de cette année,
en mars,
le champion Lee Sedol.
Et on voit les frontières bouger extraordinairement rapidement. Donc c'est absolument clair qu'on est loin des performances humaines, mais la capacité de prédire à quel moment on va être capable de résoudre des questions extraordinairement difficiles, on ne l'a plus car les choses bougent très rapidement actuellement. Et je pense qu'il y a un véritable changement de paradigme qui s'est passé. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup associé l'intelligence à la capacité de trouver des explications. Et notamment pour l'acquisition de connaissances. L'acquisition de connaissances est souvent pensée en termes de capacité de construire un modèle, une explication. Par exemple, vous avez un enfant qui va lâcher une pomme. Elle va tomber, si on pose la question du pourquoi, c'est associé à la mécanique, à la découverte de la gravitation par Newton, il y a tout un modèle. En même temps, un enfant, s'il lâche la pomme, il sait très bien qu'elle va tomber. Pourquoi ? Parce qu'il a vu beaucoup d'exemples. Alors on peut se dire, oui, mais c'est pas une forme de connaissance. Sauf que lorsque le problème devient très complexe, par exemple, un médecin qui est capable de vous dire que vous avez une maladie grâce à quelques tests et en vous regardant, vous examinant et parlant avec vous, il a fallu potentiellement 20 ans d'expérience pour arriver à cela. Est-ce que c'est une connaissance ? Tout le monde va être d'accord. Ce n'est pas un modèle car il ne connaît pas le lien entre la maladie, le mécanisme et directement ce qu'il observe. Mais par analogie, il est capable de faire ce diagnostic. Or, l'analogie est extraordinairement difficile à faire, car il a fallu qu'il comprenne qu'est-ce qui est similaire à quoi. Et là, on se retrouve devant un champ mathématique énorme qui est la géométrie, car il s'agit non plus de trouver les équations qui vont relier deux quantités comme peut le faire la mécanique newtonienne, mais de trouver les distances, les métriques dans ces espaces de données qui permettent de comprendre ce qui est proche, à quoi est-ce qui est loin. Et on se rend compte actuellement que l'intelligence analogique joue un rôle fondamental et c'est là qu'a eu lieu l'explosion, notamment ces dernières années, avec ces structures de réseaux de neurones.
Mais alors là, en vous écoutant Stéphane Mala, je me dis, mais tout ça, au fond, dans le domaine de la connaissance, c'est la vieille querelle ou le vieux problème philosophique de l'empirisme. C'est-à-dire, on est en plein dans la querelle Kant ou Hume. Est-ce que la connaissance procède de l'expérience ou est-ce qu'elle relève d'un savoir a priori ?
C'est absolument ça. Actuellement, on est dans une période qui est une période très empirique, c'est-à-dire que on a tendance à associer à la connaissance un travail exclusivement empirique, c'est-à-dire l'extraction directe de l'information des données. Cependant, si on regarde, et ça c'était la position de Locke, de Hume, et qui avait en même temps cette vision d'associationnisme, c'est-à-dire le fait que les idées émergent par association, en même temps, si on regarde les choses plus en détail, on se rend compte que le langage mathématique a un rôle fondamental, et c'est là qu'on voit apparaître le rationalisme de Kant. La connaissance n'émerge pas des données, la connaissance émerge du système qui interprète les données. Et ce système, qui est notre cerveau ou une machine ou un algorithme, va utiliser les données avec un a priori, et cet a priori, c'est sa structure. On a donc exactement la situation qu'a décrit Kant, c'est-à-dire un système a priori qui assimile les données, et la connaissance émerge de l'interaction entre ce système et les données.
Ou quand les avancées les plus récentes de l'informatique nous font comprendre des théories philosophiques. Gérard Berry, vous comprenez les choses comme ça?
Oui, c'est peut-être un peu tôt pour parler de ça, mais en fait, il y a deux approches dans l'informatique. Les deux approches existent. Par exemple, on se met à traiter des problèmes nouveaux d'analyse de très grandes données qu'on traitait pas du tout avant. Mais par exemple, dans le modèle de la pomme, quand on a compris les équations de Newton, on sait en déduire aussi des tas de choses. Donc, il y a toujours un jeu entre ces deux choses.
Déduction, induction.
Bah oui, parce que quand la déduction fonctionne, faut vraiment pas s'en priver. On fait des trucs fantastiques avec. Donc, c'est vraiment par exemple, dans une voiture, quand on conduit une voiture, la perception va être fondée sur des mécanismes d'analogie, sur des mécanismes d'analyse d'information, mais pas la conduite de la voiture. Donc, l'un ne chasse pas l'autre du tout. C'est deux approches complètement complémentaires.
Elles sont complètement complémentaires, et ça va dépendre de la complexité du problème. Si on prend le cas de la pomme, on peut répondre facilement au pourquoi. Si maintenant je vous dis, dans une semaine, il va faire beau. Pourquoi? C'est le résultat de l'interaction de milliards de particules, de ce qui se passe actuellement en Australie, de ce qui se passe aux États-Unis, des mouvements de masse d'air. Et le pourquoi, on ne peut plus y répondre de façon simple. Et ça dépend de la nature de la question. Et c'est là que le pouvoir de l'association va permettre de répondre aussi à des questions qui sont extraordinairement difficiles, où on ne pourra pas dire pourquoi en quelques mots. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variables.
Et de fait, la météorologie, c'est l'un des domaines où l'explosion des données a changé un peu la pratique.
Oui, car c'est un très bon exemple d'interface entre ces deux mondes. D'un côté, il y a une équation de la météorologie, qui est l'équation de Navier-Stokes. De l'autre côté, pour faire fonctionner cette équation, il faut donner toutes les informations sur les échanges entre les masses d'air et les masses d'eau des océans, la répartition des températures sur le globe, des pressions et autres. Et donc, c'est dans cette interface que l'on arrive à obtenir le résultat. Ceci étant, vous pouvez oublier tout cela et vous retrouver dans une petite vallée de Savoie et demander à un Savoyard quel va être le temps demain. Et il y a des chances pour qu'il soit encore plus précis que la météorologie nationale, car il connaît le contexte, il a vécu toute sa vie là, et il fait de la pure prédiction.
Gérard Berry.
Oui, ça introduit quelque chose d'assez important, c'est que la masse des données n'est pas forcément humaine. Une des très grandes masses de données viennent des capteurs qu'on met partout dans le monde. Par exemple, les données climatiques, ça vient de bouées, ça vient de stations météo qui sont dans le monde entier. Et faut oublier que les données, c'est pas que des choses qu'on tape à la machine, c'est des choses qui sont mesurées dans tous les sens. Avant, on savait pas trop quoi en faire, et puis maintenant, les nouveaux algorithmes permettent effectivement d'en faire beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de magie. On ne saura pas calculer ni prévoir. C'est plus facile de faire la climatologie, parce qu'il y a des grandes régularités à grande échelle, que la météo. C'est plus facile de prévoir l'évolution du temps en climatologie qu'en météo. Parce qu'il y a beaucoup plus de structures connues en climatologie. La météo, ça dépend tellement de facteurs locaux qu'au-delà de 10 jours, c'est pas clair.
Laura, at this stage, I can offer nothing more than my word. I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, site you visit, and subject line you type is in the hands of a system whose reach is unlimited, but whose safeguards are not. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. Ask only that you ensure this information makes it home to the American public. Thank you, and be careful. Citizen 4.
Sorry, I don't know anything about you.
Okay, I work for...
Sorry, I don't know your name.
Oh, sorry. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden's the full name.
À l'instant, on entend un extrait du film de la journaliste Laura Poitras, film qui s'appelle Citizen 4. La journaliste à qui le célèbre ancien employé de la NSA, l'agence du renseignement américain Edward Snowden, s'est adressé pour dévoiler ses révélations sur l'utilisation des données numériques personnelles, à la surveillance massive, autrement dit, des citoyens par l'agence. Cette surveillance de masse, c'est l'indépendant négatif de l'ère dans laquelle nous sommes, qui est celle de l'analyse des données. Stéphane Mala, il y a aussi un risque, au fond, dans cette discipline, ou plus exactement dans l'usage qui peut être fait des données.
Absolument. Je pense qu'il faut tout à fait en être conscient. Il y a eu d'ailleurs l'année dernière une lettre ouverte qui a été signée par des dizaines de scientifiques, mais aussi des entrepreneurs comme Bill Gates, comme Steve Wozniak, qui est le fondateur d'Apple, appelant à se poser ces questions. L'intelligence artificielle a un grand potentiel et il est important de se demander comment en recueillir les fruits tout en évitant les pièges. Et les pièges, c'est bien sûr les problématiques de surveillance, de privauté, mais c'est aussi se poser la question de la conséquence de l'automation de beaucoup de tâches relativement au marché du travail et prévoir à l'avance, car cela doit rentrer dans les programmes potentiellement universitaire pour comprendre vers quel domaine on veut orienter les gens. Certes, certaines tâches difficiles, pénibles pourront être automatisées, mais cela veut dire qu'il faut former les gens. C'est aussi le cas parce que des machines intelligentes, c'est un vieux thème de science-fiction, peuvent faire peur. Mais actuellement, personne ne peut dire que ça ne l'arrivera pas. On ne sait pas à quelle échéance, mais ces questions, la communauté scientifique dans son ensemble est d'accord pour dire il faut se les poser, les décideurs politiques doivent se les poser car il s'agit de législation. Il s'agit aussi de législation sur les données. Il est clair que à partir du moment où les données sont totalement disponibles et actuellement n'importe qui récupère des données les possède, eh bien il va y avoir beaucoup de problèmes liés au développement de la capacité d'analyse de ces données.
Oui, récemment en France, il faut rappeler qu'une controverse agite par exemple le débat public quant au bien fondé de rendre les données de santé stockées au sein du système national d'information interrégime de l'assurance maladie accessibles à des acteurs privés, des organismes à but lucratif qui auront le droit d'en faire usage s'ils démontrent l'intérêt public de leur recherche. Donc il y a les défenseurs qui disent que ça peut faire avancer la science et puis il y a les adversaires qui s'inquiètent du risque de dévoilement de données ou d'usage non vertueux. Quel est votre point de vue sur ce débat, Gérard Berry ?
C'est un débat totalement sérieux qu'on retrouve dans l'état d'autres endroits. Il n'est pas très différent de celui de la biologie où on peut faire des manips génétiques extraordinaires. Mon point de vue, c'est que ce débat est très difficile à poser parce que beaucoup d'interlocuteurs veulent avoir les réponses sans chercher à comprendre les enjeux. Et c'est vrai que c'est assez général sur l'informatique, qui fait pas partie de la culture des gens, qu'on peut avoir des raisonnements tout à fait faux si on ne sait pas comment c'est fait, comment ça marche un minimum. Et on le voit parce que les législateurs sont à l'heure actuelle toujours en retard de beaucoup de métros. Et donc, le point de vue, c'est qu'il faut vraiment faire une éducation. Et ben, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il faut faire une éducation aux gens pour montrer, avant de prendre des décisions, de savoir de quoi on parle. Parce que c'est pas tellement intuitif. Par exemple, l'analyse de données n'est pas quelque chose d'intuitif. Savoir quelle est sa puissance réelle, quand est-ce qu'elle se trompe, est-ce qu'elle est applicable aux des individus, aux masses d'individus, etc. C'est des questions qu'il faut débattre sérieusement.
Mais par exemple, vous auriez un exemple d'un débat qui agite la société et dont vous trouverez qu'il est mal posé. Qu'il est mal posé parce que, au fond, ce qui est en jeu en termes scientifiques n'est pas très bien compris.
Par exemple, l'histoire des données privées, c'est très intéressant de voir que tout le monde est d'accord pour discuter de la notion de données privées, mais en même temps, tout le monde met un tas de données privées partout. Donc, il n'y a pas de mystère. On peut pas avoir les avantages et les inconvénients.
On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Réfléchir.
Stéphane Mala.
Je voudrais dire quelque chose sur ces données médicales. Ce que je trouve quand même extraordinaire, c'est que toutes les données sur nous, ce que l'on fait à travers nos traces bancaires, les cookies sur Internet, partent, on ne s'en soucie pas. Et tout d'un coup, pour les données médicales, on est très angoissé. Certes, il faut faire très attention pour les données médicales, mais là, il y a aussi des avancées potentiellement très, très importantes pour la santé publique, pour la capacité de faire du diagnostic et donc il y a peut-être là aussi un petit risque que l'on peut prendre. Je discutais avec des gens qui font des recueils de données. C'est évidemment très frappant de voir que ce petit risque, éventuellement, on ne veut pas le prendre si on est sain. Mais lorsque vous avez quelqu'un de malade dans la famille, ou lorsque vous êtes vous-même, vous êtes malade, alors vous êtes prêt à donner vos données pour aider d'autres. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Dans le cas médical, il y a énormément de gains, et c'est certainement un des domaines les plus extraordinaires pour la société d'application. Alors qu'il y a d'autres cas pour le marketing, pour les données qui nous concernent, on ne s'en soucie pas. Et donc, il y a là des choses qui sont très asymétriques, qui demandent de bien penser le problème.
En fait, vous dites qu'il faut mettre la méfiance au bon endroit. Au fond, à chaque fois qu'il y a des avancées scientifiques, on se méfie, mais il faut faire attention de ne pas se méfier à outrance.
Il faut bien se méfier, il faut savoir prendre les précautions. Je pense encore une fois que ce sont des outils qui sont extraordinaires, qui permettent de résoudre des problèmes très importants et cruciaux, y compris pour l'humanité, comme sur la climatologie, comme sur l'énergie, comme sur la médecine. Mais en même temps, les dangers sont là, comme n'importe quelle découverte scientifique, comme la découverte, évidemment, du nucléaire, comme la découverte du marteau, où on peut enfoncer un clou, fracasser un crâne.
Gérard Berry, sur cette question ?
Le problème de la médecine aussi, c'est que la médecine a choisi pendant très longtemps, ils sont très occupés, les médecins, ils ont choisi très longtemps de ne pas s'en occuper. J'ai fait récemment une conférence à l'Académie de médecine exactement sur ce sujet-là. Il faut voir que d'un côté, il y a des données médicales fantastiques et d'un autre côté, je suis incapable de faire suivre mon dossier médical d'un médecin à l'autre quand je déménage. Donc on a vraiment de tout. Mais oui, il est temps que les différents points de vue s'entendent. Le problème, la grande difficulté du domaine, c'est comme pour la sécurité informatique, exactement pareil, c'est que les gens s'occupent de ce problème souvent quand il est un peu trop tard. Donc, et après, ils se disent, zut, on s'est fait avoir. Donc, ça, c'est une grosse difficulté. Nous, on essaie de se battre beaucoup pour que les gens prennent conscience, mais en leur disant que pour prendre conscience, il suffit pas de ne passer aucun temps sur le sujet et de décider. Il faut essayer de comprendre. Et ce sujet est très différent de ce qu'ils comprenaient avant.
Oui,
c'est ça le problème.
Est-ce que si on a un temps de retard, c'est pas aussi parce que, au fond, c'est les gens qui font les plus grandes avancées aujourd'hui dans ces domaines, ce sont pas des organismes de recherche publics, mais des entreprises privées qui ont un intérêt.
Les entreprises qui font les recherches sur ce domaine mettent presque tout en domaine public à l'heure actuelle. Donc là, c'est pas vraiment une. Les logiciels qu'utilise Facebook, pas les enquêtes qu'ils font, mais par exemple toutes les méthodes qu'ils utilisent sont connues, elles sont enseignées, elles sont.
Oui, mais c'est pas parce qu'elles sont publiées qu'elles sont guidées par l'intérêt public.
Non, mais je veux dire, ils font pas ça en secret.
Oui, oui. Stéphane Mala, sur ce point.
On a toutes les informations sur ce qui se passe. La recherche se fait essentiellement dans le monde académique, même si les données sont beaucoup acquises par des entités privées. Vous avez raison que les entités privées, comme ces compagnies, sont en conflit d'intérêts. Ce n'est pas à elles de légiférer, on le sait très bien. C'est à l'État, ce sont des problèmes politiques qui doivent être posés.
Stéphane Mala, est-ce que vous, dans votre pratique de chercheur, de scientifique aujourd'hui, vous devez veiller à ces dangers ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous occupe dans votre activité presque quotidienne ?
Non. Non, actuellement, dans mon activité quotidienne, il s'agit de faire avancer cette compréhension de la connaissance et de comprendre d'un point de vue mathématique quelles sont les structures sous-jacentes. Maintenant, en tant que citoyen, je sais très bien que toutes les publicités qui sont affichées sur mon ordinateur va éventuellement résulter du fait que Google lit mes emails et va adapter les publicités. Mais je suis comme n'importe qui.
Et comment se porte l'état de la recherche dans l'univers de la science des données en France ?
On est véritablement en pleine explosion. On est dans une situation où les résultats algorithmiques empiriques vont bien au-delà de notre compréhension de ce qui se passe. Les mathématiques sont très en retard et c'est pour ça qu'on est dans une période fabuleuse. Il y a énormément de choses à comprendre qui touchent aussi, comme on le mentionnait, des thèmes classiques de philosophie, de la théorie de la connaissance, qui permettent de se poser des questions sur des façons un peu différentes, potentiellement d'analyser des systèmes complexes comme les systèmes sociologiques ou des systèmes économiques, évidemment en conjonction avec la connaissance actuelle. D'une façon générale, c'est la connaissance des phénomènes très complexes que l'on commence à aborder. Et c'est un moment passionnant d'un point de vue scientifique.
Oui, c'est peut-être un point sur lequel il faut insister. Hein. Aujourd'hui, les données, ce sont aussi, l'analyse des données de masse, ce sont aussi des ressources pour les sciences humaines y compris. Hein. Vous avez parlé de la sociologie. C'est un endroit où sciences dites dures et sciences humaines se rencontrent en quelque sorte.
Absolument. Non seulement ce sont des ressources, mais ce sont aussi des ressources pour penser potentiellement la manière de faire de la sociologie. Quand vous avez une explication d'un phénomène sociologique, bien souvent, c'est par projection de ce phénomène sociologique sur un ou deux axes. Par exemple, la notion de distinction par Bourdieu pour expliquer des phénomènes de comportement sociologique. Mais on sait très bien que le comportement d'un agent social va dépendre d'énormément de variables. Et donc la question, c'est comment faire de la science, comment acquérir de la connaissance lorsque l'on veut tenir en compte toutes ces variables, qui sont des milliers, voire des millions de variables, et comment penser les choses d'un point de vue mathématique et d'un point de vue, donc, ensuite, ou en parallèle, sociologique, économique. Donc c'est un regard un peu différent.
Gérard Berry, sur ce point, on peut dire que là, il y a une note d'optimisme après avoir évoqué les dangers de l'usage des données. Là, on parle de points tout à fait positifs.
C'est vrai pour tout ce qui est extrêmement puissant. C'est déjà arrivé pour l'informatique. Ça montre aussi quelque chose de très important. L'information, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas la matière. On parle que de matière et d'énergie. On parle jamais d'information dans les discours. J'en donne un exemple tout bête. Philae qui a été lancé sur la comète Chury. On a jamais dit que c'était un objet informatiquement extraordinaire. J'ai jamais entendu ça. Or, s'il arrive à se poser sur une comète à des millions de kilomètres, c'est juste dû à ça. Donc, oui, l'informatique est extrêmement puissante. Cette nouvelle forme d'informatique nous interroge. On ne sait pas ce que ça fait à l'heure actuelle, pour être honnête. C'est pas vieux. Ça a une puissance formidable. Donc, pour la science, c'est merveilleux. Et on est dans la même situation que à l'époque de l'atome, à l'époque de la biologie. Je veux dire, la biologie aussi pose des questions tout à fait similaires. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le génome? Les biologistes savent faire des choses extraordinaires avec les génomes. Faut-il les faire? Faut-il pas les faire? Ces questions sont liées à toute découverte ultra-puissante. Il n'y a jamais eu autant de découvertes ultra-puissantes en même temps que maintenant.
Donc,
pour les scientifiques, c'est rien que du bonheur, c'est sûr.
Il faut rendre hommage à l'informatique.
Open the light, climb the mountain between Paris and Haikai.
Merci beaucoup Gérard Berry et merci à vous Stéphane Mallard. Pour retrouver des références bibliographiques et les références musicales de cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture où vous pourrez aussi la réécouter et la télécharger grâce à d'autres récents progrès informatiques. Cette émission est réalisée en partenariat avec le magazine Science et Vie dont je vous signale la sortie en kiosque il y a quelques jours d'un numéro spécial consacré à la vie extraterrestre. Pour la suite des passeurs de science, rendez-vous le week-end prochain, samedi à 18h10 pour la suite de notre série sur le cerveau et dimanche à la même heure où nous poursuivrons ce parcours informatique avec vous Gérard Berry. Il sera question la semaine prochaine de cryptologie. C'était Les Passeurs de Science, l'informatique, une émission proposée par Mathilde Wagman et réalisée par Assia Khalid avec aujourd'hui à la technique Claude Niort.